Québec depuis le début de cette pandémie.
En tout cas, c'est le Canadien. Moi, le Canadien va affronter les Flyers.
Le Canadien.
C'est jamais clair. J'ai demandé même à Ray Lalonde de m'emmener qui a déjà travaillé pour le Canadien.
Ben, il n'y a pas un directeur des coms du Canadien qui avait répondu. J'ai vu ça passer sur Twitter il n'y a pas longtemps. Les deux sont acceptés.
Ben, les deux sont acceptés parce que...
Un historien du Canadien.
C'est ça l'affaire, c'est qu'historiquement, on a toujours dit le club de hockey canadien.
C'est ça.
Mais depuis des années, le Canadien fait sa publicité comme étant les Canadiens.
Exact. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, c'est les Canadiens de Montréal.
Maintenant qu'on est dans les affaires extrêmement importantes,
oui,
le COVID, on peut aussi dire ça maintenant.
Que c'est?
Parce que c'est le virus.
Ah!
Ouais, parce que COVID, c'est coronavirus, disease, 2019, là. Donc, disease, c'est une maladie, donc la COVID. Mais ils ont accepté aussi le COVID parce que ça fait référence à le virus.
Parfait, ça élimine beaucoup, beaucoup d'erreurs.
Est-ce que votre journée est égayée grâce à cette information? Je pense que non. Alors, 8h35, les sports.
Je vais me coucher moins niaiseux, au moins. Oui. C'est cool, ça sert à ça. OK, Canadiens Flyers, ça va être ce duel-là en première ronde des vraies séries de la LNH. Les Flyers ont gagné hier 4-1 face au Lightning de Tampa Bay pour obtenir la première place du classement dans l'Est. Les Golden Knights ont gagné hier 4-3 en prolongation face à l'Avalanche du Colorado. 2 buts pour Jonathan Marchessault dans la victoire, un bon chum de notre prochain invité. D'ailleurs, les Golden Knights vont affronter les Blackhawks de Chicago lors du premier tour. L'Avalanche va affronter les Coyotes en première ronde des séries. Il y a 3 matchs au programme aujourd'hui. Bruins Capitals à midi, Blue Stars à 15h et 5e et ultime match entre les Leafs et les Blue Jackets à 20h. Puis moi, je vais également suivre cet après-midi à 13h30 les Raptors de Toronto qui affrontent les Grizzlies de Memphis. Les Raptors ont jusqu'à maintenant 3 victoires en 4 matchs dans la bulle et ils sont toujours 2e dans l'Est. Paul Météo.
OK, oui, à la météo, max de 27 cet après-midi sous le soleil, copié aujourd'hui, collé demain. C'est comme même journée qu'hier. On avait 3 journées extrêmement semblables.
Ça va être beau.
Non, mais là, je pourrais vous dire qu'il y en a une qui était ciel variable, l'autre qui était alternant soleil et nuages.
C'est
mais
ça.
À quoi bon? C'est quoi la différence de toute façon? On s'en fout. Max de 27, belle journée, très agréable.
Sourire dans la face.
Plaisir, bonne humeur, jouer dehors, toutes ces affaires-là mélangées ensemble. Aller se promener en bédaine sur la Grande Allée. Non, ça c'est mieux pas.
Et on ramasse notre masque aussi.
Oui, puis on ramasse nos vidanges. Possibilité qu'il y ait les premières pluies ou orages de la semaine autour de mardi, mais ça a vraiment le temps de changer. La bonne nouvelle, c'est que si je regarde vraiment les prédictions pour les prévisions, je devrais dire, pour la semaine, il y a une seule journée où on prévoit des orages. Ce fait que ça devrait être relativement passager.
Pas
on a une belle semaine qui nous attend présentement. Il fait 20. Là, j'ai appris toutes sortes d'affaires dans les derniers jours, notamment. Moi, je pensais que la KHL, la Ligue continentale,
oui.
Ben moi, je l'ai toujours appelé la Ligue continentale russe. Alors que KHL, ça veut dire pour Continental Hockey League, il n'y a rien de bon.
C'est pas pire.
C'est pas exclusivement russe.
Sherlock.
Merci. Mais je savais pas qu'il y avait des équipes en Chine, moi.
Mm-hmm. Ouais, c'est limitrophe, puis ça permet de. Oui, je pense qu'il y en a une au Kazakhstan aussi.
Oui, aussi, je pense, en Slovaquie.
Ouais.
Puis je comprends, mettons, moi, j'irais développer le marché chinois, hein, considérant qu'il y a quelques personnes qui vivent là quand même. Mais j'étais pas au courant. Or, il se trouve qu'il y a un gars de chez nous, un gars de Québec, qui a joué pour les Remparts et qui s'aligne maintenant pour le HC Red Star de Kunlun. Dans la Ligue continentale, c'est Mickaël Tam que vous connaissez peut-être. Salut, Mick!
Salut, ça va bien, les boys?
Yes, toi aussi?
Ça va super bien.
Là, dis donc, t'es à Québec en ce moment?
Exactement, ouais, je suis à Québec. C'est une année un peu folle pour tout le monde, là. Même dans le monde du sport, comme tout le monde a vu. Puis c'est ça, là, d'habitude, moi... avec mon équipe, dans le fond, qui joue en Kitchen, mais basée en Chine, là, on part dans les alentours du 23 juillet. Puis là, avec tout ce qui se passe, c'est retardé. L'équipe doit jouer en Russie cette année, en banlieue de Moscou. Puis c'est tout ce fait-là là, qui est difficile d'avoir les visas pour pouvoir aller là-bas là, en étant nord-américain, qui est difficile avec la barrière qui est fermée en Russie. Fait que en ce moment, on est en attente de savoir quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on a le visa, puis la saison commence bientôt parce que l'horaire vient de sortir, puis le premier match de saison, c'est le 3 septembre.
OK, ça fait que ça niaisera pas, mais c'est-tu le principe de la ville-bulle, dans le fond, qu'ils vont faire dans le coin de Moscou? Ben, comment on pense que ça peut marcher, puis c'est quoi les mesures qu'on prend pour essayer que vous ayez une saison?
Ben, les mesures, tout ça, je sais pas, là, moi, de ce que je sais en ce moment, c'est non, c'est pas une ville-bulle. Chaque équipe, dans le fond... les équipes qui sont hors Russie pour commencer la saison devront jouer en Russie. Nous autres, l'équipe de la Chine, c'était déjà convenu là depuis peut-être un mois ou deux là que on allait jouer en Russie. Nous ont comme trouvé une ville là-bas qui avait pas d'équipe, là, Mitchi, là. Ils ont déjà eu une équipe en KHL là, 5 ou 6 ans, puis ils n'avaient plus, fait que leur aréna est disponible.
Okay.
Puis c'est ça, là, dans le fond, ça va être là qu'il va être notre home base, notre aréna locale.
Là, si vous n'êtes pas capable d'obtenir des visas, Michael, pour le début de la saison, puis les joueurs étrangers qui jouent dans cette formation-là, il va arriver quoi avec cette équipe-là? On va essayer de prendre des joueurs en Russie, qu'est-ce qui va arriver?
Oui, mais c'est ça, là, de ce que j'ai appris, c'est un petit peu farfelu, c'est fou, là. Il y a quelques jours, ils ont commencé un camp d'entraînement d'une trentaine de joueurs qui sont de la Russie, qui avaient pas de contrat ou ben qui jouaient peut-être dans la deuxième ligue en Russie, là. Fait que ces gars-là, ils ont un camp d'entraînement là, en ce moment. Ils leur ont dit qu'ils étaient là, puis eux autres, ils allaient se battre pour un spot. Il allait garder des spots ouverts même quand les Nord-Américains allaient arriver. Puis ils leur ont dit aussi que ça se pouvait que cette équipe-là allait commencer la saison là, si on n'était pas capable d'avoir nos visas avant le 3 septembre.
Ça ressemble un peu au film Les Remplaçants, le film de football avec Kenny Reeves. Là, ça, c'est carrément ça. Là. C'est absurde.
Ça, ben, vu de même, là, oui, là, ça ressemble à ça. Là.
Mais le hockey en Chine, ça se passe comment? Moi, je savais même pas qu'il y avait une équipe de la KHL en Chine.
Ben l'hockey en Chine, ben tu sais, pour nous côté fans, on n'a pas encore tant que ça. T'sais, c'est ouais. pas encore un
c'est, nouveau,
c'est pas encore un sport. Ouais, c'est ça, c'est pas encore un sport qui est développé. Tu sais, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait lever là. Je pense probablement après les Olympiques là. Tu sais, le sport d'hockey les Olympiques d'hiver, c'est pas mal le sport le plus médiatisé là. Je crois bien.
Ouais.
Fait que c'est sûr que si t'es capable de aux Olympiques de la Chine, t'as une équipe, puis le monde, il suit pas mal ça, tu sais, ça pourrait devenir de quoi que le monde y tripe, puis commence à jouer de plus en plus, parce que, tu sais, il y a tellement de jeunes en Chine puis de population qu'à un moment donné, si un sport se développe, là, ça pourrait faire un gros boom. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'à nos matchs, t'as pas des grandes foules. Fait que c'est quasiment plus le fun de jouer sa route, là, de jouer devant 7000 personnes qu'au lieu de jouer devant 1200, 1500 personnes.
Hey, 1200 personnes puis 1500 personnes. Toi, t'as connu les 15000 au Colisée qui étaient en liesse devant vos exploits. C'est quand même particulier, Mick, de vivre cette espèce de clash-là culturel. C'est vraiment ça qu'on remarque, là.
Ouais, c'est bien différent. Puis ça, c'est une notion que c'est pas tout le monde qui sait, là, mais dans l'hockey professionnel, en général, c'est pas partout où tu joues que tu vas jouer devant des 10, 15 000 personnes. Ouais. Fait que c'est là que tu vois à quel point qu'il y a des petits gars de 16 à 20 ans qui jouent dans les Remparts de Québec, ils sont chanceux, puis ils savent pas nécessairement de pouvoir jouer devant autant de spectateurs. Puis tu sais que tu joues dans la Ligue américaine, tu sais, à part la Ligue nationale, là, que tu joues dans la Ligue américaine, tu joues dans l'East Coast, tu joues dans des places en Europe, là, il y a pas ben de place tant que ça là, que à tous les soirs tu vas jouer devant plus de 5000 spectateurs. Fait que ces petits gars-là sont chanceux, puis les années des Remparts c'était plaisant là.
Puis toi, tu t'es promené pas mal, Mick, d'ailleurs, depuis les Remparts. T'as été aux États-Unis, t'as été en Norvège, mais si je me trompe pas, toi, t'as la double citoyenneté Chine et Canada. Ça doit te faire de quoi aussi personnellement de jouer en Chine?
Ouais, ben j'ai pas ma double citoyenneté dans le fond. Mon père est d'origine chinoise, puis c'est ça qui m'a permis de rentrer en KHL en ne pas comptant comme un joueur étranger là dans le fond.
Ouais.
Vu que mon père il est de la Chine, moi là-bas je compte pour un joueur local dans le fond pour Kunlun. Mais le but de tout ça au départ de notre équipe, c'était ça justement là, de amener des Nord-Américains d'origine chinoise qui ont des antécédents là-bas,
puis bon.
Ultimement de leur donner une citoyenneté pour pouvoir jouer aux Olympiques. Mais je pense que ça, c'est un autre affaire qui est comme compliquée là. Ça fait déjà, tu sais, les 3 dernières années j'ai joué là-bas, puis au départ ils nous avaient dit que si tu joues 2 ans consécutifs, là, tu vas avoir ta citoyenneté, tu vas pouvoir commencer à jouer sur l'équipe nationale. Puis, c'est pas encore arrivé, en espérant que ça arrive avant les Olympiques de 2022.
Mais là, Mick, ça veut-tu dire que éventuellement aux Olympiques d'hiver, il pourrait y avoir un jour un match de hockey Canada-Chine qui aligne Michael Tam dans l'équipe de la Chine. Puis je pousse peut-être un peu la patente, mais ça serait-tu un peu un de tes objectifs?
Ben non, tu pousses pas la patente parce que c'est ça l'objectif. Il y a quand même des chances que ça arrive. Si on parle de nos citoyennetés, tu sais, on est quoi? Je dirais qu'on est une entre 12 et 15 dans le fond nord-américain d'origine chinoise qui joue dans les dernières années dans l'organisation de Kunlun. Je pense il y a des noms que vous connaissez, là, Brandon Yip, Victor Bartley qui a joué sporadiquement avec le Canadien un peu. Plusieurs gars qui ont joué dans la Ligue américaine, en Europe, ces choses-là. Puis c'est ça, ces gars-là, on est là-bas, puis le but, c'est de mener à avoir notre citoyenneté pour jouer aux Olympiques en 2022, puis essayer de donner une game à Team Canada Crosby avec David.
C'est spécial, pareil, incroyable. Mick, parle-moi un petit peu du quotidien avec ta formation de la Chine, parce que tu m'as déjà mentionné que vous êtes une des formations, je pense, dans tout le sport professionnel qui voyage le plus. Combien de temps vous passez dans l'avion, puis ça ressemble à quoi le quotidien quand vous jouez une saison dans la KHL?
Ah, c'est un sujet qui est un petit peu fou, là. Je le dis tout le temps à tout le monde, mais dans n'importe quel sport professionnel, que ce soit hockey, soccer, whatever, notre équipe de hockey, c'est sûr et certain que c'est l'équipe dans le monde qui voyage le plus. C'est notre voyagement le moins long, c'est 8 heures d'avion.
Hey, le moins long?
Puis dans le fond, ouais, le moins long, c'est 8 heures d'avion. Mettons un mois là normal à peu près, là, on va jouer 2 semaines à la maison, qui est situé à Beijing, puis on va jouer à peu près 4 games contre des équipes qu'eux autres, ils viennent, ils fly in, fly out, eux autres, là, ils viennent comme une journée, puis ils repartent dans la nuit après un game pour être le moins longtemps possible en Chine, parce que le décalage horaire, il est comme de 5 heures avec l'horaire régulière en Russie. Fait que nous autres, c'est ça, on va jouer 4 games à peu près à tous les 2 jours, on va avoir une couple de journées off. Après ça, on part sur la route d'habitude pour un 4 à 5 matchs aussi. Fait qu'au minimum, on fait 8 heures d'avion parce que Beijing à Moscou, c'est 8 heures d'avion. Puis après ça, on voyage entre chaque ville en Russie. Si le voyagement il est vraiment pas long, moins de 2 heures, ça peut être en autobus. Le reste, c'est en avion, soit après le match ou le lendemain. Puis ça va comme ça pas mal toute la saison, là.
Faut que t'aimes ça Netflix, ouais. Hein, puis une couple de petites patentes pour te garder occupé, mais c'est une 30aine d'heures d'avion, je pense, qu'ils font par semaine. Ça n'a pas de bon sens.
C'est sûr que le Netflix, il me restait plus grand chose à écouter là, quand j'étais arrivé dans le COVID. Puis là, on est commencé à être déconfiné, fait que j'ai arrêté d'écouter du Netflix, mais je me prépare là, 3-4 saisons pour cette année. Là. Même quand t'as pas autant de voyagement que ça durant une saison de hockey, là, surtout quand t'as l'autobus un petit peu, là, t'as besoin d'avoir des bons shows dans la ligne.
Là, j'ai entendu dire que vous aviez un nouvel entraîneur-chef, ça se peut-tu?
Oui, exactement.
Qui est assez connu quand même.
Un petit peu quand même. Ouais. Certain Alex Kovalev, qu'on connaît un petit peu quand même. Ça doit être spécial. As-tu commencé à travailler avec ou parce qu'il a été nommé il y a à peine quelques semaines, est-ce que j'ai compris?
Oui, mais Kovi, ça faisait 2 ans qu'il était notre assistant d'entraîneur.
OK.
Fait que là, 2 ans, il était comme entraîneur des défenseurs. Demandez-moi
ben
pas
oui.
pourquoi.
Oh, ben oui, Kovalev, ouais. La défensive, c'était sa force.
Il était, ben, c'est surprenant, les gars, mais tu sais, c'était le coach des défs, puis honnêtement, il y avait vraiment des bons cues à donner, tu sais, c'est niaiseux, je pense, qu'il a tellement été bien surveillé, puis joué contre des bons défenseurs.
Ah, c'est ça.
Que il y avait bien des affaires qui, en tout cas, qui m'ont enseigné, qui m'ont montré que, tu sais, tu dis Alex Kovalev, c'est sûr que défensivement, c'est pas le meilleur, mais tu sais, des petites choses, là, comment bien utiliser ton bâton, puis comment fermer ton espace, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant, puis j'ai été surpris à quel point que c'était des petits trucs, le fun, que j'avais jamais entendu à certaines autres places que lui donnait en n'étant pas un défenseur. Fait que ça m'a agréablement surpris. L'année passée, il était coach des attaquants, fait que j'ai un petit peu moins travaillé avec lui, mais tu sais, c'était tout le temps lui qui s'occupait des joueurs scratch, qui donnait les scratch gates après les pratiques. Fait que tu sais, ça arrivait qu'on était ensemble. Puis on, justement, quand on fait des scratch gates, mettons, ben, scratch gates, c'est les gars qui jouent pas le soir, là.
Ouais.
puis Kobe, c'est lui qui le donne. Puis souvent, on va jouer un petit 3 contre 3 à la fin, là, tu sais, c'était 5, 6 gars. Puis quand il manque un gars, Kobe, il embarque, là, puis il est encore l'enfer.
Il y a encore la touche, parce que toi puis moi, Mick, on a le même âge, là. Puis tu sais, moi, Kobe, ouais. c'était pas mal mon boy, là, dans le temps, là.
C'est des années.
Il y a encore la twist.
Les skills sont phénoménales, puis c'est fou à quel point que... Donc, Kobe, là, pas d'épaulette par tracksuit, il a l'air quasiment plus gros que tout le monde, ça y est.
Et puis, là, la vraie question, Mick, c'est à quel moment dans la saison, si saison il y a, puis qu'il va jusqu'au bout, là, à quel moment décidera-t-il de retourner sur l'avantage numérique juste pour prendre des one-timers aussi, là, tu sais, à un moment donné, ça va venir, cette histoire-là, là.
On y a tout pensé, un moment donné, qu'il y avait des blessés, un moment donné, on se demandait si Kobe, genre, il était encore capable de jouer. Puis,
il avait dit qu'il voulait jouer jusqu'à 50 dans la Ligue nationale.
Justement, nous autres, c'est ce qu'on disait. Il pourrait jouer en power play encore parce qu'il a vraiment les habiletés, puis tu vois ses passes, puis tout, là. Mais, tu sais, il pourrait plus à cause du patin puis la forme physique, là, je pense. Ouais. C'est que.
Un petit shoot-out, là, du revers, comme il faisait tout le temps, là, me semble, c'était pas pire. Ça,
ouais, ça de barrage, de même. Hey, n'importe quand.
Let's go.
Mais non, il est encore bon, mais j'ai bien hâte de voir il va être comment comme entraîneur-chef, parce que tu sais, Kobe, c'est un gars qui était très aimé là, par les joueurs là, de sa personnalité, puis aussi du fait qu'il était vraiment là pour les skills, puis il était bon pour aider les joueurs, que ce soit les joueurs qui jouaient pas, que ce soit les joueurs qui avaient besoin de confiance. Je pense que c'est un gars que les gars aimaient dans la chambre. Mais ça va être intéressant de voir comment comme entraîneur-chef, parce que c'est sûr c'est une game différente là, tu sais, quand tu connais les joueurs comme adjoint, puis t'es comme un petit peu le gars qui remonte les joueurs qui ont moins de confiance, ces choses-là, puis là tu deviens entraîneur-chef. C'est ça va être intéressant de voir ça va être quelle personnalité qui va ressortir de lui là.
Eh bien, écoute, je sais pas si c'est bonne chance ou bon succès ou bon courage, faut que je te souhaite pour la prochaine saison. Peut-être un peu de tout ça, mais merci d'avoir pris du temps pour nous ce matin, Mick, puis on va suivre tes péripéties avec l'équipe de Kunlun dans la KHL. Merci, Mick.
Merci, Mike.
Bon, ben, merci à vous autres. Salut, les boys.
Salut, bon bye. Bonne journée. Bye. Michael Tam, que vous avez connu, évidemment, à l'époque des Remparts, qui s'aligne maintenant. Oui. Qui s'aligne maintenant pour le HC Red Star de Kunlun, qui se retrouve être l'équipe de Beijing, finalement, là, en KHL. Et qu'il y aura Alex Kovalev comme entraîneur-chef.
C'est le genre d'expérience que t'aurais jamais... C'est un voyage que t'aurais jamais fait. Là, aller vivre en Chine pour jouer au hockey en Chine. Puis en plus, tu rajoutes cette couche-là. Puis le fait de voyager de même, tu visites plein d'endroits en Russie et en Europe. Puis,
moi, ce qui m'a le plus fait capoter,
c'est... Parce que je pense qu'il y a une équipe aussi en Finlande.
Je pense que oui. Ils sont 3-4 pays avec, bien sûr, la plupart en Russie.
Qui essaient de développer.
Ouais, c'est quand même cool, sans blague.
Ben, il y a ça c'est clair. Mais le fait aussi qu'ils recrutent des joueurs nord-américains d'origine chinoise pour essayer de parce que rappelle-toi en Corée aux derniers Jeux Olympiques là il y avait
une équipe féminine
puis il y avait mélangé
les deux Corées ensemble,
Corée du Nord, Corée du Sud,
exactement.
Puis il y avait beaucoup, ils viennent chercher beaucoup de Canadiens pour être entraîneurs, pour
c'est un Québécois même qui est entraîneur là-bas. Si je me trompe
c'est
pas.
Ça.
C'est pas un Québécois, c'est un gars de Québec.
De Québec même.
Ouais. Un gars du coin. Ils sont. On l'a déjà eu en entrevue avec Steph.
C'est ça fait que là t'es dans le développement d'une éventuelle nation sportive là. La Chine là, c'est pas rien là, c'est le plus gros marché au monde en n'importe quoi, on s'entend là, c'est la plus grosse population. Fait que là on dit regarde toi là, t'es d'origine chinoise, prenez t'établir, ça te tente, t'es bon au hockey. Viens jouer chez nous, là, puis ça se pourrait que tu fasses partie de l'équipe nationale. Aux Jeux olympiques,
on va la remettre quand même en perspective, celle-là, parce que c'est vrai que c'est l'objectif, mais ça s'annonce à être pas mal plus du très, très, très long terme qu'autre chose. Parce que...
Attends, il faut se qualifier.
J'ai fait mes recherches, là, comme
on
dit.
Ah, t'as fait tes recherches, ça fait
pendant actuellement, la Chine est classée 32e pays au monde au hockey. Et actuellement, il y a six groupes principaux qui se disputent les honneurs du championnat mondial de hockey. Mais tu sais, t'as comme les groupes A et B là, qui sont les grosses équipes qu'on connaît, celui qu'on suit. Puis t'as le dernier, là, les groupes 3, où est-ce que t'as les deux derniers groupes. Là, ça joue du hockey, mais beaucoup moins. Tu sais, genre, des fois, t'as Mexico, des affaires de même qui se glissent là-dedans. Là. Fait que c'est. Tu sais, je connais quelqu'un qui a déjà arbitré ce championnat-là, puis il me dit c'est pas du gros calibre, mais ça reste un championnat mondial.
Ouais, c'est hot. Ça.
Bon. Puis là, la Chine est comme à deux fois plus loin dans le classement. Oui. Fait que tu sais, il va falloir graver les échelons.
Mais ça, c'est parce que. Les prochains Jeux Olympiques d'hiver sont supposés être où?
Ben oui.
C'est en Chine.
En Chine.
Pékin!
Mais...
Exactement. Mais je pense justement...
Ça va avoir un petit passe-droit.
Je pense qu'ils ont un passe-droit. Je pense qu'ils ont laissé un peu comme le Canada qui va accueillir la Coupe du monde de soccer.
Oui.
On va avoir notre formation. Puis normalement, en une vraie Coupe du monde, on ne pourrait pas se qualifier.
Je le dis, les gars, Michael Tam. Michael Tam, Team China. Moi, je prends de la Chine.
Il y a du monde en Chine. Il y a du monde en joie le vert. Si juste, mettons, 5 ou 10 % des jeunes commencent à jouer au hockey... Ça fait pas mal de monde, même juste 5-10 % de la population. Là.
Ben non, t'as raison.
Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au basket au Québec, puis il n'y en a pas beaucoup qui se rendent jusqu'au bout non plus.
Je comprends.
Mais ce que je veux dire.
Chris Boucher,
okay, vous dire ça autrement, là, il y a des prédispositions physiques pour tous les sports, puis je ne suis pas sûr que les Chinois ont les prédispositions physiques pour avoir un gros def de 6-3 devant le but.
Yao Ming,
c'est rien de glissant de ce que j'ai dit.
Je vais nommer le seul Chinois de 9 pieds que je connais. Yao Ming!
Puis à 9 pieds au hockey, ça marche pas.
Non,
ça...